Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le même chapitre que la semaine passée, mais ce sera à partir du verset 40 jusqu'à la fin. Alors, avant la parole, est-ce que quelqu'un demanderait à un volontaire de prier pour le message de la parole? Amen. Luc 8, à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauve. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. J'ai déjà prêché sur ce passage, mais sur un autre aspect. Et aujourd'hui, j'aimerais examiner avec vous quels sont les autres aspects qui m'ont marqué lorsque j'ai relu ce passage. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vivante. Hein? Elle est vivante. Et il y a tellement de choses à découvrir dans cette parole. Hein? On peut lire un passage 10 fois, 20 fois. Et chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Alors ici, nous avons deux situations. On a la situation d'abord de Jaïrus, un homme haut placé, qui a une autre fonction, un homme influent, un homme populaire. Il est dit qu'il était chef de la synagogue. Donc ça veut dire vraiment un homme important dans la communauté. Et pourtant, il était dans l'impasse. Il était dans l'impasse. Malgré sa popularité, malgré son influence, malgré sa haute fonction, il était dans l'impasse. Et il avait besoin d'un sauveur. L'autre situation, c'est cette femme, on pourrait dire, qui avait tous les moyens pour se payer tous les médecins du monde. Et malgré tout, elle était dans l'impasse. Elle aussi, elle avait besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin d'un sauveur, peu importe sa situation. Ces deux-là avaient besoin d'un sauveur. Maintenant, on voit qu'il y avait cette femme surtout. C'est surtout la situation de cette femme que j'aimerais examiner aujourd'hui. Cette femme souffrait terriblement. Et ça faisait déjà 12 ans qu'elle souffrait. Et elle a tout dépensé pour, avoir la guérison, avoir la santé. Mais rien n'y faisait. Et voilà que maintenant, elle se dit, il n'y a qu'une personne qui puisse vraiment me guérir, c'est Jésus. Et alors elle se dit dans son cœur, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements. Et malgré la foule, elle se fraya un chemin et finalement, elle a pu toucher le bord du vêtement de Jésus. Et au miracle, à partir du moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle était guérie. Et c'est là donc qu'arrive la situation où Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et il pose même, il dit même, qui m'a touché? Qui m'a touché? Dans les évangiles, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de fois où Jésus pose des questions, on pourrait dire, mais quelle est cette question? Et c'est l'une des situations où Jésus dit, qui m'a touché? Et alors Pierre, dans sa logique, dit, mais maître, il y a la foule qui t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Effectivement, Jésus est parmi la foule. Il y a beaucoup de gens qui le pressent, qui le touchent, qui le bousculent. Comment peux-tu dire, qui m'a touché? Et là, Jésus dit, qui m'a touché? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question, qui m'a touché? Il savait déjà qu'il avait touché. Et le point ici, c'est que la guérison de cette femme ne vient pas du vêtement magique de Jésus. Ce n'est pas qu'il y avait une puissance magique dans les vêtements, mais qu'est-ce qui avait fait la différence? Merci frère, c'est la foi de cette femme. C'est cette foi qui a fait toute la différence. Cette foi et cette soif de Dieu, cette soif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et mes amis, c'est cette soif-là qui va faire la différence pour chacun de vous ce matin. Pour chacun de vous, chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, qui va faire la différence chaque fois que vous élevez la voix vers Dieu. Vous savez, beaucoup de gens peuvent venir à l'église et ne rien recevoir. Et pourtant, certains vont recevoir quelque chose. Et chacun va être touché en fonction de la mesure de sa foi, en fonction de la mesure de sa soif. Beaucoup de gens étaient autour de Jésus, l'ont bousculé, n'ont pas été guéris. Et cette femme, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait touché avec un but clair. Une soif. Et donc, Et elle a touché Jésus et cela a fait une différence dans sa vie. Les autres qui étaient autour de Jésus, qui le bousculaient même, étaient là par simple curiosité. Pour eux, c'était un rabbin, peut-être comme les autres, peut-être un petit peu différent, mais ils étaient là avec... Ils étaient là par curiosité. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose. Mais cette femme-là, elle n'était pas venue voir un spectacle. Elle n'était pas là simplement par curiosité. Mais elle avait une bonne motivation. C'est la motivation qui fait la différence lorsque nous prions, lorsque nous cherchons Dieu. Il y en a qui entourent Jésus, qui bousculent Jésus avec leurs arguments philosophiques. Et là, ils n'obtiennent rien. Ils disent, fais un miracle. Mais Jésus dit, pour à cela, vous ne verrez pas de miracle. Et pourtant, Dieu fait des miracles tous les jours. Ils vont dire, fais un miracle. Et pourtant, lorsque nous lisons la parole, on voit Dieu par la mer Rouge. Il envoie la manne, il envoie la caille du ciel, il fait ouvrir le, il fait couler l'eau du rocher, il fait passer le Jourdain en crue, il ressuscite des morts, il fait beaucoup de miracles, mais malgré tout, les incrédules ne le voient pas et demandent encore un miracle. Et Jésus dit, pour vous, il n'y aura pas de miracle. Parce que c'est simplement une curiosité intellectuelle. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Et là, ils n'auront rien. Parce que ils bousculent Jésus. Ils bousculent Jésus avec leurs questions. S'il y avait un Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a cette arrogance intellectuelle vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas cette humilité. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme ce pharisien qui se mettait dans la rue, les mains en l'air, disant, Seigneur, je ne suis pas comme ce vaurien de publicain. Moi, je fais ceci, je fais cela, je paye ma dîme, je jeûne. Je fais ci, je fais ça. Il était tellement fier de lui. Donc il s'attendait à ce que Dieu le récompense de ses bonnes œuvres. Mais nous savons que Dieu fait tout par grâce. Et que nous ne méritons rien. Mais il fait tout par grâce. Par contre, il y avait ce publicain qui n'osait pas regarder le ciel. Mais qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus dit, vous voyez, eh bien, ce publicain est rentré chez lui, eh bien, exaucé, tandis que l'autre n'était pas exaucé. Donc voilà la différence entre ces deux catégories de personnes. Il y en a qui bousculaient Jésus. Ils étaient là par curiosité. Et je suis sûr qu'il y avait d'autres malades que cette femme. Il y avait d'autres malades. Mais c'est seulement cette femme qui a été guérie, parce qu'elle avait soif de Dieu, elle avait foi, elle était humble. Elle était humble. Et en touchant Jésus, Jésus l'a aussi touché. Extraordinaire. En touchant Jésus, par sa foi, Jésus l'a touché aussi par son amour. Pourquoi Jésus voulait-il que cette femme sorte de l'anonymat et s'identifie? Jésus savait qui? Parce qu'il est omniscient. Pourquoi dit-il, qui m'a touché? Quand Pierre dit, maître, la foule tantôt était presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara, devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, ma fille. Vous savez que cette femme n'avait pas le droit, d'après la loi, de toucher Jésus. Elle devait être éloignée, très loin, de tout le monde, parce qu'elle avait du sang qui coulait d'elle. Et quand on a une effusion de sang en tant que femme, eh bien, devait être éloigné de tout le monde. C'est écrit dans Lévitique. Elle était impure. Elle était impure. C'est pourquoi elle se cachait en voulant toucher Jésus. Elle dit, si seulement je parviens à toucher Jésus. Et en touchant Jésus, elle n'a pas rendu Jésus impur. C'est la pureté de Jésus. Amen. Et donc, Jésus voulait montrer par là que toute personne, que tout le monde a besoin d'attention et de respect. En faisant en sorte que cette femme puisse se dévoiler, Jésus veut dire, elle aussi, elle est enfant d'Abraham. Elle aussi, elle a besoin d'attention. Elle aussi, elle a besoin d'amour. Elle aussi, elle a besoin de restauration. Et donc Jésus, en faisant en sorte que cette femme soit identifiée, elle a restauré cette femme. Elle a restauré cette femme dans son estime de soi, dans son estime personnelle. Elle dit, ma fille. C'est pas une personne quelconque. Ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvée. Et donc, Jésus veut dire à tout un chacun ici que tu comptes à ses yeux. Tu comptes à ses yeux. Et peu importe ta situation, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de te cacher, mais Jésus dit, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Viens en toute humilité, mais viens avec foi. Viens avec audace. Et tu vas obtenir la grâce. Viens avec foi. Jésus est là pour restaurer. Pour restaurer. Ma fille. Prends courage, ta foi, ta sauve. Et cette femme, elle a été restaurée. Et alors l'histoire continue. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur. » Point seulement. Et elle sera sauvée. Ne fais pas attention à ce qu'on dit. Ne fais pas attention à ce qu'on dit, mais crois seulement. Parce que parfois, quand tu fais attention à ce qu'on dit, tu perds la foi. Tu perds la foi. Tu te focalises sur la situation, alors que tu dois plutôt focaliser ton attention sur celui qui sauve. Sur celui qui guérit. Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Il y a des situations où il faut un entourage restreint. Dans certaines choses, il faut de la sagesse pour un entourage restreint. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Et alors les autres se moquaient. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Voilà pourquoi il faut un entourage restreint. Quand les autres sont là, ils se moquent. Et alors, ta foi risque d'être ébranlée. Mais prends des gens, il y a des situations où tu dois prendre des gens qui peuvent être là pour fortifier ta foi, mais pas pour te décourager. Jésus dit, fais-les sortir. Fais-les sortir ces incrédules. Et il admet seulement avec lui quelques disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il ne prend pas la grande foule. Il n'y avait que Pierre, Jean et Jacques, et puis le père et la mère de l'enfant. Il prend seulement ces gens-là. Parce que les autres se moquent. Les autres ne croyaient pas. Il y a un autre passage dans l'Évangile où il est dit que Jésus était arrivé à un endroit où il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. C'était dans sa propre patrie. Et vous savez pourquoi il ne pouvait pas faire de miracles? Parce qu'il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas en lui. Il disait, ah oui, mais celui-là, on le connaît. C'est le fils de Joseph, le charpentier. On connaît ses frères et sœurs. On connaît ses frères et sœurs. Qui est-il? Et alors, il ne croyait pas en Jésus. Et alors, il est dit que Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles en ce lieu parce qu'il ne croyait pas. C'est la foi qui amène le miracle, ce n'est pas le miracle qui amène la foi. Bien sûr, les miracles fortifient la foi. Les miracles ont aussi leur importance. Mais au départ, c'est la foi qui amène le miracle. Et le miracle fortifie la foi des croyants. Mais les incrédules, tu as beau faire des miracles, ils continuent à être incrédules. Il y a plein d'exemples dans les évangiles. Je vous donne un exemple. Dans Jean 11, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Lazare. Lazare est mort. Et alors Jésus arrive. Marthe et Marie disent, ah, si seulement tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, écoute, je suis la résurrection et la vie. Marthe et Marie disent, oui, on sait, mais c'est à la fin des temps. Jésus dit, je suis la résurrection. Et finalement, Jésus a ressuscité Lazare. Alors, quand Lazare est ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens viennent à Jésus, suivent Jésus. Et alors, les pharisiens sont jaloux. Ils disent, maintenant, voici tout le monde va chez cet homme. Il faut arrêter cela. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils planifient de faire? On va tuer Lazare. Imaginez, Lazare, Jésus vient de ressusciter Lazare. Quel miracle extraordinaire! Et ils disent, on va tuer Lazare. Pourtant, c'est un miraculé. Donc vous voyez que les incrédules, ils peuvent faire des miracles et ils restent incrédules. Et donc, ce qui amène le miracle, c'est la foi. Quand les gens vous disent, s'il y avait ceci, s'il y avait cela, je croirais, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges du diable. Crois et tu verras. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est Dieu qui impose ses conditions. Ce n'est pas à nous d'imposer nos conditions au Seigneur. C'est lui le maître de la nature. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui édicte les règles. C'est lui qui détermine les règles, pas nous. Et donc, beaucoup de gens, à cause de leur arrogance, à cause de leur logique tordue, ils ne verront pas la gloire de Dieu. Ils ne verront pas les miracles de Dieu, quoique les miracles de Dieu sont là tous les jours. Le soleil qui brille chaque jour, n'est-ce pas un miracle? D'après la science, on sait que si le soleil était un peu plus proche de la Terre, la température aurait été insupportable. Et si le soleil était un peu plus loin, la même chose, la température aurait été insupportable. Et donc, le soleil et la Terre sont à la bonne distance, de même que la Lune. Ce sont des miracles quotidiens. Et donc Dieu est là, il fait des miracles tous les jours. Mais à cause de la curiosité malsaine de certains, à cause de leur logique tordue, de leurs arguments philosophiques inappropriés, eh bien, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Et il n'y a aucune transformation qui se passe dans leur vie. Les gens qui prolongent Jésus, qui le bousculent eux-mêmes, n'ont vu aucune transformation dans leur vie. Alors que cette femme, juste un petit toucher, et là sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée. Et je crois que nous devons prier de la même façon que cette femme. Si seulement, Seigneur, je parviens à te toucher. Et le toucher aujourd'hui, nous pouvons toucher Dieu par nos prières. Ce n'est pas avec la main physique que nous pouvons toucher le Seigneur aujourd'hui, mais c'est par nos prières, lorsque nous répandons notre âme devant le Seigneur, et par cette soif sincère, et nous pouvons toucher le Seigneur. Et lorsque nous touchons le Seigneur par notre foi, lui nous touche par son amour, par sa puissance. Et le Seigneur veut porter un regard d'amour vis-à-vis de tous ceux qui le cherchent. Jésus veut porter un regard d'amour sur tous ceux qui le cherchent. Même lorsque les autres auraient voulu écarter cette femme, je suis sûr que si certains savaient que cette femme avait un problème d'écoulement de sang, ils l'auraient botté, ils l'auraient chassé. Ils l'auraient dit, c'est pas ta place, femme. Ici. Va très loin, éloigne-toi. Ne viens toucher personne ici. Et c'est pour ça que cette femme tremblait. Elle dit, ma place n'est pas ici. Et pourtant Jésus dit, femme, non pas femme, ma fille. Jésus ne dit même pas femme, dit ma fille. Donc, pour Jésus, cette femme a beaucoup d'importance, au point qu'il l'appelle « ma fille ». Jésus ne s'exprime pas toujours ainsi. Mais par rapport à elle, elle dit « ma fille ». Et ensuite, il ajoute « prends courage ». « Prends courage, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Pars dans la paix. » Donc Jésus, il porte une attention particulière sur cette femme et lui marque beaucoup de respect. Et Jésus montre aussi par là que le toucher, son toucher, c'est un toucher personnel. Ce n'est pas quelqu'un est guéri, mais c'est cette femme en particulier. Ma fille. Ma fille. C'est celle-là qui a été guéri, qui a été sauvé. Et en fait, Jésus ne dit même pas que tu es guéri, mais il dit, ta foi t'a sauvé. Donc tu es sauvé. Elle reçoit plus que la guérison. Elle reçoit plus que la guérison. Elle reçoit le salut de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut offrir à tout un chacun. Plus que la guérison, plus que ce que nous cherchons au départ. Paul dit, il est capable de nous répondre au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Dieu donne toujours plus. Dieu, c'est un Dieu généreux. Notre frère a lu un passage sur la générosité. Regardez lorsque Jésus a fait les miracles de la multiplication des pains. À chaque fois, il y avait des pains qui restaient. Mais en même temps, Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille non plus. Et à chaque fois, il dit, ramasse le reste. Hein? Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille. Mais en même temps, c'est un Dieu généreux. Il donne en abondance. Mais il ne veut pas qu'on gaspille non plus. Il dit, ramasse le reste. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui aime et qui dit à chacun, tu as de l'importance à mes yeux. Son toucher, c'est un toucher personnel. Dieu est là pour chacun de nous. Bien sûr, il est là pour nous en tant que son peuple, en tant qu'Église, mais il est là pour chacun de nous. Et c'est pour ça, chaque fois que nous venons à l'Église, nous avons un rendez-vous personnel avec lui. Un rendez-vous personnel. Et donc, ne soyons pas simplement là, mais que nous soyons là avec la foi. Et lorsque nous avons cette foi-là, eh bien, nous allons entendre Dieu. Nous allons voir Dieu. Vous savez, lorsque Paul était sur le chemin de Damas, il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Mais dans ce bruit-là, il y avait une voix qui a parlé. Paul a entendu distinctement les paroles, mais les autres ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Et parfois, il y a une vision aussi. On voit une lumière, mais on ne voit pas ce qu'il en est effectivement. Donc, c'est la même chose aussi. Chaque fois que nous venons à l'église, peut-être certains entendent un bruit. Mais alors que Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que nous entendons sa voix? Dieu parle aussi au travers des circonstances de la vie. Parfois, nous voyons juste une image quelconque. C'est comme, je me rappelle, lors du tsunami en 2004, on raconte que, avant le tsunami, beaucoup d'animaux avaient senti que quelque chose allait se passer et beaucoup d'animaux, eh bien, quittaient la côte pour aller se réfugier en montagne. Ils avaient senti quelque chose, tandis que les autres n'étaient au courant de rien du tout. Ou bien nous avons l'exemple lorsque Balaam, le prophète rebelle, lorsqu'il était sur l'âne, l'âne a vu l'ange, mais Balaam ne voyait pas l'ange. Et à un moment donné, Balaam s'est fâché, il a commencé à taper l'âne. Et l'âne lui répondait, et il ne se rendait même pas compte qu'il parlait avec un âne. Il y a des choses ainsi, Dieu parle par toutes sortes de circonstances, mais on ne fait pas attention. Mais celui qui a la foi, eh bien, il peut voir. Il peut voir la main de Dieu. Il peut recevoir le toucher de Dieu. Et à ce moment-là, sa vie est transformée. Il y en a qui viennent à l'église, qui ne sont pas transformés. Ils disent, il n'y a rien qui se passe. Mais il y en a qui viennent et qui sont transformés. C'est ce que je souhaite à chacun de nous, que nous soyons transformés par la présence de Dieu. Amen. C'est cette foi-là qui va faire cette transformation. Certains vont dire, mais il n'y a rien qui se passe. Je n'entends rien, je ne vois rien. Et il y a quelqu'un qui va dire, j'ai entendu. Que je vais garder dans mon cœur. Et qui va conduire ma vie. Et Que Dieu nous aide à être comme cette femme, seulement je. Et lorsqu'on a cette attitude-là, le Seigneur vient. Le Seigneur vient parce que c'est un Dieu qui accorde de l'attention et du respect. Il accorde de l'attention et du respect. C'est-à-dire, chacun est important aux yeux de Dieu. Chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Les autres auraient méprisé cette femme parce qu'elle avait du sang qui coule. Mais Jésus ne l'a pas méprisée. Jésus l'a accueillie et il lui a dit, ta foi t'a sauvée. Je prie le Seigneur que chacun de nous puisse toucher Jésus par la foi et que Jésus puisse nous regarder à chacun. Ma fille, mon fils, ta foi. Prions-le. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là pour nous. Tu veux nous changer, tu veux nous transformer. Mais nous ne voulons pas te présenter des arguments tordus. Nous ne voulons pas avoir d'arrogance intellectuelle à ton égard. Mais nous voulons vraiment nous humilier devant toi et de dire, Seigneur, s'il te plaît, tiens-nous. Aie pitié de moi, parce qu'il n'y a que toi seul qui peux me sauver. Oui, Seigneur, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas les hautes fonctions qui peuvent nous sauver, mais c'est toi, et c'est toi seul qui puisse nous sauver. De même que Jaïrus ne pouvait pas être sauvé par sa réputation, par sa haute fonction. De même que cette femme ne pouvait pas être guérie par les médecins, mais toi seul pouvais la sauver. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons placer notre confiance en toi et en toi seul, afin que tu puisses nous toucher ce matin. Seigneur, aide-nous à être humbles devant ta face, afin que tu nous touches. Qu'on ne soit pas là simplement comme de simples curieux qui est là pour te bousculer. Non, Seigneur, nous voulons te toucher, que tu nous touches à ton tour et que tu nous transformes. Merci, Jésus, de bénir ce matin chacun de mes bien-aimés ici présents, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas, mais comme cette femme, qu'ils prennent courage et qu'ils viennent à toi et qu'ils te touchent. C'est vrai, pour te toucher, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a une foule autour, une foule de curieux qui empêche de venir à toi. Mais nous voulons briser, nous voulons percer un trou au travers de cette foule de curieux pour venir jusqu'à toi et pour te toucher. Oh oui Jésus, aide-nous Seigneur, aide-nous à te toucher. Merci parce qu'en retour tu nous touches. Et tu nous transmets. Au nom de Jésus. Amen.
C'est Pasteur Martin pour la parole. Et là, nous allons inviter notre groupe.